Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. On dirait que la semaine a été plus longue qu'à la fin. Bonjour, as-tu cette impression-là?
Non, c'est parce que tu avais moins de choses à faire, mais t'es un paradoxe. Tu te souviens d'Yvon Deschamps qui disait en politique, les Québécois, ils veulent un Québec indépendant dans un Canada fort.
Je sais
si ben, une fille qui porte les épaules dénudées avec une grosse tuque en laine, ça s'appelle comment, ça?
C'est vraiment vrai, et je suis un paradoxe sur pattes, et j'écris mes chansons en paradoxe, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai... J'ai un gilet à manches courtes, à épaules dénudées, avec ma grosse tuque. Je me sens un peu hipster aujourd'hui.
Cherchez l'énigme, la réponse à l'énigme.
Je suis un énigme. Quel est le mystère? J'espère que ce sera ça pendant 60 minutes, parce que quand même, c'est un peu loufoque, ludique, et on adore ça. Bienvenue à une autre édition d'Aime la vie. Club closed at 2 a.m. I've already been through about 7 scenarios, but what it was that changed your mind? Knowing very well that you told me you come home and it happens every time. Wish I had no expectations. I wish that I could get it through your head. When no you expect, we expect. No, I don't mean to pry. I don't need no play-by-play. No. All I need from your side is for you to communicate. Respect for my time, respect for my space, respect for my energy. Expectations de Lauren Yorigi, qui, quand j'ai fait ma petite recherche sur cette femme qui est ma découverte musicale de la semaine, vous vous en douterez, a fait X Factor au début des années 2010. C'est ça, mon Dieu. Je suis rigolote aujourd'hui. Quelle bonne blague. Dans la deux... Non, mais c'est ça, 2011, 2012, 2013, Jean-Sébastien?
12.
2012, donc Expectations, qui est un single qui est super récent. Elle a pris son temps et ça a donné quelque chose de super bon. Parlant de prendre son temps, on sait que le stress, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Bonne nouvelle, on est tanné d'être stressé, c'est mauvais pour nous. On a des bonnes raisons de vouloir arrêter d'être stressé, d'être sur le nerf, d'être nerveux, d'être toujours rushé en bon français. qui est d'autant plus intéressant, au-delà du fait que le stress au travail augmente les risques de crise cardiaque. Ça, c'est une chose qui est pas... on peut pas passer à côté de le dire et on peut pas non plus diminuer l'importance ou banaliser ce phénomène-là. Avoir trop de délais au travail diminue la productivité de ce que l'on fait. En fait, les études démontrent que ceux qui ont trop de choses à faire dans un trop court laps de temps perçoivent qu'ils ont moins de temps qu'ils en ont réellement. Donc là, on vient jouer sur la perception cognitive, mentale du temps des gens. Si tu as une minute et que tu penses que tu as 37 secondes, tu vas faire moins d'affaires dans ta minute. Il y a comme un 20, si on calcule rapidement, il y a comme un 23 secondes de perdu. Et c'est un peu ce qui se rend compte qui se passe actuellement. Donc, avoir moins de choses à faire dans ce même délai de temps-là...
Étire le temps.
Permet d'aller au bout de ses idées, d'aller au bout. Et les gens, quand ils ont trop de choses à faire, vont avoir beaucoup de difficultés à se mettre sur des tâches à long terme. Des tâches qui vont s'échelonner sur des jours, des semaines. On parle des projets d'architecture, soyons imaginatifs. Là. Alors, ils vont commencer à avoir de la difficulté à placer ça dans l'horaire et avoir une projection temporelle adéquate pour les mener à terme. Alors, ils vont toujours mettre de l'avant, choisir d'investir leur temps en premier lieu sur des tâches à court terme. Envoyer des courriels, répondre à des courriels, faire des listes de tâches, ce qui est un petit peu paradoxal, mais quand même. Tu vois, genre, repasser des appels qui n'ont pas été faits. Toutes des petites choses qui fait que la tâche principale n'est pas faite.
Mais quand tu parles de perception, c'est facile de donner des exemples dans le métier que tu fais. Si tu as 3 minutes à faire en onde et que tu as une petite affaire à dire qui dure 3 lignes, tu vas trouver le temps très long, merci, ça va être une cause de stress. Si tu en as 18 à dire en une minute, c'est une cause de stress aussi.
Exactement.
Il faut donc savoir équilibrer ce que tu as à faire et le temps que tu as pour le faire.
Ben exactement, mais il y a aussi l'idée de ralentir. Et je vous invite à aller sur YouTube et de visionner la vidéo qui s'appelle « Unrealistic Deadlines ». Unrealistic Deadlines nous montre, avec un exemple très, très visuel, ce que ça donne quand on a trop de choses à faire en moins de temps. C'est quelqu'un qui dessine, tout simplement. Jean-Sébastien hoche la tête, tu l'as vu?
Oui, j'ai vu. C'est quelqu'un qui dessine Spider-Man.
Exactement.
En 10 minutes, en 1 minute et en 10 secondes.
Et c'est ridicule. Et le gars est super talentueux, mais malheureusement, pour des délais non raisonnable ou déraisonnable, il botche, puis c'est vraiment n'importe quoi. Pour vrai, 10 secondes, c'est à peu près moi ce que je peux faire en 10 minutes, mais je suis pas dessinatrice dans la vie. Alors, bonne nouvelle, vous allez maintenant avoir un argument de masse pour avoir moins de choses à faire, être plus productif.
Ou avoir plus de temps pour les faire.
Ah.
La neige qui tombe dehors, le froid qui m'enlace si fort, les souvenirs du temps qui dansent me rappellent ton nom ce soir. Je ne t'oublie pas, je te sens si près de moi. Je ne t'oublie pas, tes yeux qui me guident parfois. J'ai beau avancer ou recommencer, ta présence me rassure encore. Je ne t'oublie pas, crois-moi. Thank you. protéger ton cœur. Les souvenirs du temps qui chantent me rappellent ta voix, maman. Je ne t'oublie pas, je te sens si près de moi. Je ne t'oublie pas, tes yeux qui me guident parfois. J'ai beau avancer ou recommencer, ta présence me rassure encore. Je ne t'oublie pas, crois-moi. Je ne t'oublie pas. Si près de moi, je ne t'oublie pas, tes yeux qui me guident parfois. J'ai beau avancer ou recommencer, ta présence me rassure encore. Je ne t'oublie pas, crois-moi.
On vient d'entendre la magnifique voix, oui, de May Wells avec la chanson « Je ne t'oublie pas » qui est son prochain single francophone, mais qui est connue pour avoir été la chanteuse du groupe The Garlics qui a chanté en anglais majoritairement. Et c'est pas pour rien qu'on passe cette chanson-là, parce que cette chanson-là, « Je ne t'oublie pas » fait partie d'un projet très particulier qui a été mentoré, je dirais, qui a été mené de A à Z par un sympathique garçon qui est avec nous aujourd'hui, Mathieu Caron. Mathieu, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce projet qui est l'album Les Voix de Noël.
Ouais, c'est incroyable. Je vais t'en parler, je trouve ça bien bizarre.
Ben, ça fait très longtemps que tu travailles sur ce projet-là, plus d'un an, et c'est un album de Noël, comme on vient d'entendre, mais qui vient de chanter « Je ne t'oublie pas », qui est très particulier. Ça a une raison d'être, cet album-là.
Ouais, ben c'est un premier pas dans la production pour commencer. La réalisation, c'est arrivé un petit peu plus tard. Je pensais peut-être pas le faire, mais je me suis rendu compte que c'était d'une évidence qu'il fallait que je m'implique vraiment de A à Z dans le projet, parce que j'avais une vision avec cet album-là. Et l'album sert à amasser des fonds pour la Société québécoise de schizophrénie. Moi, j'ai perdu ma mère il y a 20 ans. Elle était atteinte. Elle s'est malheureusement enlevée la vie 2 ans après le diagnostic. Donc, comme ça tombait pile sur le 20 ans plus tard, je me suis dit, ben là, on produit un album. Ma mère était quelqu'un de ultra festif. C'est moi, l'Halloween, Noël, tout ça, c'était quelque chose. Fait que je trouvais que c'était le projet parfait pour lancer ça.
C'est exactement, c'est comme le projet Poupée Russe, parce qu'il n'y a pas juste ce lien-là. C'est comme si tout était aligné, les étoiles, tout est fait pour que ce projet-là ait un sens, un double sens, puis un triple sens, entre autres par rapport au fait, et notre ami Robert ici l'a mentionné tout à l'heure quand on s'est rencontrés avant l'émission, que ce n'est que des femmes qui chantent sur l'album. Il y a une raison pour ça.
Ben, c'est assumé, parce que moi, dans la vie at large, je suis très girl power. Donc moi, je l'assume, là, j'adore ça. Et tu sais, je commençais à faire les choix, puis regarder qu'est-ce qui peut être sur l'album et tout. Puis je me ramassais à avoir comme 2 gars et plein de filles. Puis je me disais, ben là, tu sais, ils sont un petit peu tout seuls de leur gang. Fait que je vais l'assumer. Ça va être un projet 100% féminin pour rendre hommage à ma mère.
Tu me donnes, donne-moi juste 20 secondes. Je veux pas vous interrompre. C'est quoi, c'est le girl power, d'après toi?
C'est être féministe. En fait, c'est du girl power, là.
C'est féministe en anglais.
Je me considère comme une personne très féministe. Ouais, moi, je pense que il est temps que les femmes aient leur place. Puis je l'assume entièrement. Je suis très, très fier des femmes. Moi, je le cache pas du tout.
Et tu es derrière cette initiative de les mettre de l'avant dans ce leadership-là. Mais il y a aussi un lien avec les voix, les hallucinations auditives qui peuvent être entendues quand on est atteint de schizophrénie.
Ça, c'est fascinant, parce que c'est quand j'ai rencontré la société qu'on m'a dit, ben écoutez, c'est bien ce projet-là, parce que généralement, les gens qui font une crise, ce qu'ils vont entendre majoritairement comme voix, ceux qui font des hallucinations auditives, c'est la voix d'une femme. Et là, j'ai un projet de 14 femmes. Et ça m'a vraiment... Moi, je me suis dit, ma mère veille sur le projet quelque part. C'est sûr et certain que... Tu sais, je veux pas partir sur un trip ésotérique, là, mais...
Oh, moi, ça me tente.
Ben, tu sais, mais quand même moi, que je me dis, je trouve ça fascinant. Fait que, tu sais, tout était normal. Fait que, tu sais, après ça, tu sais, si je fais un volume 2, est-ce que je garderais le même concept? Est-ce que je ferais la version 100% masculine? Je sais pas encore, mais j'aime bien ça, le 100% féminin.
Donc là, on a un album, Les Voix de Noël, qui correspondent aux voix qu'on peut entendre quand on est atteint de schizophrénie. Et par ailleurs, cet album-là, c'est 5$ par album vendu qui vont être remis à la Société québécoise de la schizophrénie avec laquelle tu t'es associé pour le projet. L'album est en vente, entre autres, sur les plateformes numériques depuis le 9 novembre. Mais
ça coûte combien, l'album?
20$.
20$.
Et on 13 chansons quand même.
Ben, 13 chansons.
C'est un album complet, là.
Et on va vous en repasser parce que là, on l'a dit, May a fait une chanson qui est spécialement pour toi et pour ta mère.
Ouais, c'est
une
mon histoire.
Composition originale. Mais on a quand même Les Douces Nuits de Noël, on a Joyeux Noël, Sainte Nuit, c'est tout là, ces chansons-là.
Ouais,
c'est vraiment un album de Noël.
Oui, et 3 autres chansons originales, donc une raison de plus de découvrir du nouveau matériel de Noël. Marc-André Savageau qui signe 2 textes et Ariane Laniel, le 3e. Donc,
et beaucoup de gens de la relève également qui nous permettent de connaître des nouvelles voix à travers des grands classiques. C'est toujours super intéressant. On peut dire également que l'album n'est pas en vente dans les points de vente, sauf chez toi.
Ouais.
En Abitibi, c'est bien ça?
Oui, en Abitibi, Témiscamingue, il y a 2 points de vente. 3 points de vente, c'est vrai. Et sinon, voixdenoël.ca.
C'est là qu'on peut avoir notre copie physique.
Oui, ça part par la poste. J'envoie ça moi-même en plus. Donc,
toi-même?
Oui.
On peut se le faire autographier, mettons,
ben,
par toi?
On peut, certain.
Un petit mot d'espoir,
ça me fait toujours
si on a envie.
Oui, ça me fait toujours rire parce que j'ai fait 2 lancements en Abitibi et j'avais un line-up de ma famille pour des autographes. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'était assez particulier. Mais oui, je peux le signer avec grand plaisir.
Et là, je m'adresse aux auditeurs. Vous entendez le ton de sa voix? Vous entendez son débit? Vous entendez un peu le personnage et la joie qui t'habite? Et moi, j'ai vraiment envie de te la poser, la question, à savoir, on perd sa mère à 9 ans.
Oui.
T'as perdu ta mère à 9 ans de la maladie mentale qui est la schizophrénie, qui est très prenante et pour la personne qui en est atteinte et pour sa famille. Comment on devient l'homme qu'on est, joyeux, plein de projets avec ce véhicule-là? Comment on le transforme en tremplin?
Ben c'est drôle, mais je pense que, tu sais, quand on est très, très jeune, on s'en rend peut-être moins compte, mais à 9 ans, moi, c'est encore très, très clair dans mes souvenirs, ce qui s'est passé à cet âge-là. Et on dirait que quand on perd notre mère à cet âge-là, on dirait que j'ai déjà perdu le pire que je pouvais perdre dans ma vie. Ce qui fait qu'après ça, foncer, avoir des échecs, peu importe, il n'y a rien de pire qui pourrait arriver que ce que j'ai vécu là, on dirait, en mon sens. Je parle pas d'avoir un cancer, quoi que ce soit, mais on dirait que les petites choses que les gens vont s'arrêter en disant « Ah, oh, je serais pas capable », pourquoi t'essaierais pas? Puis il y a aussi l'autre côté où ça fait quelques années là, que je me parle puis que je suis plus calme là-dessus, mais ça a été très, très long avant de me dire qu'il fallait pas que je vive ma vie en double. Parce que je me dis, ma mère a seulement vécu jusqu'à 32 ans. Moi, il faut que j'aille, puis plus qu'elle. Puis tu sais, il faut que...
Tu vas le faire un peu par compensation.
Oui, c'est
est-ce
ça.
Est-ce que tu avais des frères et sœurs?
Je suis enfant unique de la relation de ma mère avec mon père, mais j'ai 2 autres demi-frères et sœurs. Mais je suis seul de cette union-là. Donc, j'étais un peu, oui, le seul avec cette situation-là, parce que mon père a refait sa vie avec une autre femme. Donc, eux ont encore leur mère, tout ça. Donc... Je suis comme le seul qui a vécu ça dans
cette
ma famille
perte.
Proche. Là. Ouais,
voilà.
C'est ça.
Et ce que tu dis, c'est quand on perd la chose, le pire nous arrive puis qu'on perd ce qu'on voulait absolument pas perdre, après, il n'y a pas cette peur-là qui nous suit et qui nous arrête souvent, la peur de perdre. La peur de perdre un projet.
Ouais.
On poursuit des rêves, la peur de pas l'atteindre, c'est plus là. Et ça, c'est énorme. C'est comme si tu dis, Emmanuel, j'avance dans la vie sans avoir peur.
Mais tu sais-tu quoi aussi, tu sais, moi j'ai quitté en 2011 l'Abitibi-Témiscamingue, je me suis revenu ici, je connaissais même pas mon coloc, j'étais vraiment là, je connaissais personne ici. Et de 7 ans plus tard, d'avoir une business, d'avoir un album qui vient de sortir, de travailler dans mon domaine, puis d'aimer ça, c'était déjà au-delà de mes espérances. Mais on dirait qu'à quelque part, moi je me disais, faut que ma mère soit fière de moi. Mm-hmm. Tu sais, même si elle est plus là, je me dis, faut que par mes réussites, elle va avoir, elle aussi, réussi quelque part. T'sais, je pense qu'il y a un peu de ça.
Mais je pense qu'elle t'a entendu parce qu'elle t'a permis de réussir ce projet-là qui est Les Voix de Noël.
Ouais.
Tu l'as dit, je pense qu'elle est là et je pense que tu l'as réussi très bien. Merci de nous l'avoir offert. Et je veux rappeler à tout le monde que c'est 20$ pour avoir ces magnifiques voix dans notre radio pendant le temps des fêtes. Et c'est lesvoixdenoël.ca.
C'est voixdenoël.ca. Puis là, c'est la grosse tempête de neige. Là. Fait que c'est la journée idéale pour écouter ça. Là. On commence le temps des fêtes. Là,
on aujourd'hui. Commande sur Internet, fait qu'on n'a même pas besoin de se déplacer.
En plus.
Merci Mathieu Caron.
Merci à vous.
voir que je suis là. La lumière constante qui enveloppe ton corps, le chuchot de ton souffle, le silence de ton départ.
Écho de ta voix, c'était Julie Kim et l'album Portrait. Robert.
Oui, ma chère. As-tu signé le pacte?
J'ai tellement signé. J'ai pleuré. Hein? Ben, tu dois. T'es surpris. Ce vidéo-là, est-ce que vous avez vu ce vidéo-là où tous les artistes prennent le micro un après l'autre pour. On aurait eu du puis on en a. Écoute, Véronique Loutier est là, Louis Morissette, tout le monde est là finalement. Et je regardais ce mouvement de masse-là. J'ai pleuré, puis après j'ai été le signer. J'étais bien contente.
Bon, tu sais qu'il y avait en France Nicolas Hulot, qui est un grand écologiste, peut-être le plus grand qu'on a en France actuellement, qui était ministre de la Transition écologique et du Mouvement solidaire, a démissionné parce que le gouvernement vraiment ne suivait pas ce qu'il devait faire, selon lui. Il y a une initiative qui vient de sortir au Québec qui me plaît assez. Ça ira probablement pas loin compte tenu de la force d'inertie qui nous caractérise ici en Amérique du Nord, mais il y a ce député Pierre Nantel qui est
le
néo-démocrate, pas vraiment.
Ouais.
Pierre Nantel qui est député néo-démocrate de Longueuil-Saint-Hubert, qui a proposé qu'on ait, comme au temps de la guerre, un ou une ministre de la guerre. Il y avait ça pendant la guerre, la dernière guerre, pour pouvoir prioriser la guerre sur tous les autres ministères. Il a proposé qu'au gouvernement fédéral, on fasse cela en nommant quelqu'un sénateur ou sénatrice et que cette sénateur ou cette sénatrice devienne ministre de la guerre au réchauffement climatique, finalement.
Il a pris un poste qui anciennement était la guerre réelle.
Qui avait déjà existé au temps de la guerre et du temps de Mackenzie King aussi au début du siècle, et pour en faire une idée moderne. Et j'aime beaucoup les propositions qu'il fait. Il y a trois personnes possibles. Il nomme Jean Lemire, il nomme Laure Varidel et il nomme Guilbeault là-dessus pour pouvoir prendre ce genre de poste. Moi, j'adorerais que quelqu'un... Moi, je serais maniaque pour que Laure Varidel, que je connais bien, qui est une pure magnifique, mais qui est concrète dans ce qu'elle fait de façon exceptionnelle. J'aime beaucoup cette femme. D'ailleurs, elle a beaucoup parlé au niveau du pacte dont on parlait tout à l'heure. S'il fallait qu'on nomme une Laure Varidel au Sénat pour s'occuper comme ministre de la priorité écologique et du réchauffement culturel, ça serait extraordinaire. Alors, peut-être que sa proposition va rester lettre morte, mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on donne suite à ça un jour et qu'on sorte enfin des luttes de partis partisanes, etc., et qu'on s'occupe vraiment d'un objectif qui soit bien au-delà des partis.
En fait, c'est bien connu qu'à la minute où on a un but commun, on peut rassembler des gens, des idéaux différents.
Et ça prend quelqu'un qui n'est pas, pas issu du milieu des partis politiques, du milieu partisan.
Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Ce projet-là te plaît autant? Pour quelle raison? Est-ce que tu crois qu'en nommant quelqu'un, on a une espèce de visuel sur la responsabilité? On a un responsable, on a un leader, ça rend quelque chose de concret?
Ce qui est intéressant pour moi dans cette idée-là, c'est de transgresser les règles habituelles politiques.
J'aurais dû m'en douter.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quelqu'un ose, pour une fois, se donner un élan, un coup de pied au cul et monter un petit peu plus haut que le côté du partisan. Ça va beaucoup plus.
Et de faire les choses différemment pour changer les choses.
On n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça différemment, ça va dans le mur.
Quand on veut changer les choses, commençons par nous changer nous-mêmes. Merci, Robert. On continue pour 30 minutes de bonnes nouvelles, 30 minutes de sourire, de rire idéalement. Emmanuel Robitaille et Robert Blondin avec vous encore pour la prochaine demi-heure. On va en musique et tout de suite après, François Baruel vient nous parler santé.
Oh, je l'aime, lui.
La voix des gens que l'on nomme en gros avec un numéro.
carence en vitamine D et schizophrénie. Bonne nouvelle, la vitamine D semble être un traitement adjuvant efficace. Qu'est-ce qu'un adjuvant? Et aussi, quel est le lien entre schizophrénie et vitamine D? François Baruel, notre expert, est là pour nous l'expliquer. Bonjour François.
Bonjour Emmanuel.
Qu'est-ce qui se passe avec la vitamine D en lien avec la schizophrénie?
Alors là, je fais référence à un article qui est sorti dans Psychiatric Research. Et on ne sait pas très bien en réalité, mais on s'est aperçu que sur 140 sujets, il y avait 22% de sujets qui présentaient une carence en vitamine D. Et ceux-là étaient particulièrement déprimés, d'une part, et particulièrement anxieux, d'autre part. Donc c'est deux choses différentes. Hein.
Absolument.
Voilà. Et en fait, les syndromes dépressifs, donc, apparemment, sont plus importants, et les syndromes dépressifs et anxieux sont plus importants chez les carencés en vitamine D. Alors, on s'est dit, donc, on leur donne de la vitamine D. On les a supplémentés, mais largement, hein, en vitamine D.
C'est quoi la source de la vitamine D?
La vitamine D, ouais, c'est le cholestérol, c'est le cholécalciférol, on trouve ça où? C'est la peau qui synthétise avec le soleil, qui synthétise la vitamine D.
C'est ça qui manquait sur les bateaux des Français qui sont venus
non,
nous
non,
découvrir.
Non, non, ça c'est la vitamine C.
Ah, la vitamine C, oui. C'est comme si je n'avais rien dit.
C'est la vitamine C, ça, c'est qui donne du scorbut. Ça, c'est, on les trouve dans les
frais. Je me méprise.
Dans les frais.
Je ne ferai plus jamais.
Mais non, c'est
pour jamais dire jamais.
C'est ça qui permet d'apprendre. Hey.
Mais là, on traite les symptômes dépressifs.
C'est très bizarre.
Les symptômes anxieux, on leur donne une dose relativement élevée quotidienne en pourcentage.
Voilà. Bon. Et ils se sont révélés être ensuite beaucoup moins dépressifs ni anxieux.
Ça fonctionne.
Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Hein. On ne sait pas pourquoi. C'est une piste de recherche qui est très intéressante parce que, d'autre part, ces mêmes personnes avaient un syndrome métabolique. C'est-à-dire, donc, j'en ai déjà parlé du syndrome métabolique.
Tu pourrais nous le rappeler, s'il te plaît?
Bien sûr.
Merci.
C'est-à-dire surpoids, diabète, hypertension, trop de triglycérides, et voilà, en fait, et diabète, donc, hein, ce que je dis. Et eh bien, ils se sont améliorés aussi. C'est quand même curieux, ça.
Donc, c'est comme si la vitamine D touchait sur plein de choses qui, après ma barre, n'auraient pas de lien.
Après ma barre, ça n'a rien à voir.
Absolument.
Et donc, bon.
On dit bien après ma barre.
Prime abord, absolument. Donc là, on est en train évidemment de rechercher ce qui se passe, mais bon, on vient de le retrouver, c'est tout frais, hein, ce que je viens de vous dire. Donc on est en train de rechercher la chose, mais on se demande finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire une supplémentation systématique de vitamine D chez les gens qui sont atteints de schizophrénie? Ça permettrait déjà probablement de diminuer leur syndrome anxieux ou leur syndrome dépressif.
OK, donc là, on est plus dans le traitement ou dans la diminution de symptômes plutôt que de la maladie elle-même.
C'est presque un test diagnostique. Okay. Absolument, oui. Okay. C'est un test thérapeutique plutôt. Mmh. C'est un test thérapeutique parce que finalement, pourquoi pas? Il n'y a aucun risque à leur donner de la vitamine D. Mmh. Vitamine D, d'ailleurs, tout le monde en a besoin.
Je reviens sur l'origine. Est-ce qu'il y a un légume, une nourriture qui est de la vitamine D plus que d'autres?
Non, c'est vraiment le soleil.
C'est vraiment le soleil.
Le soleil sur la peau.
Luminothérapie, est-ce que ça peut fonctionner pour nous, Québécois, dans le mois de février?
Et puis, c'est l'huile de foie de morue.
Et Air Transat pour aller au soleil.
Alors, l'huile de foie de morue, on la trouve... la vitamine D, on la trouve en gélule, bien sûr, elle est synthétisée,
mais
on la trouve donc dans le foie de morue. Le foie de morue fumé, par exemple.
C'est bon, ça.
C'est excellent, le foie de morue fumé, en tartine. C'est excellent, et c'est bourré de vitamine D. C'est bourré de vitamine D. Faut pas confondre l'huile de foie de morue et le foie de morue fumé. C'est deux choses différentes. L'un est le caviar de l'autre.
Et là, qu'est-ce qui est arrivé avec cette étude-là en lien avec la schizophrénie, littéralement? Qu'est-ce qu'on se rend compte? Ça fonctionne ou pas?
Ben, ça fonctionne. Ben, ce qui fonctionne, c'est que quand on les supplémente, ça marche. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais du moins, on diminue les
symptômes. On améliore la qualité de vie de ces gens-là.
Il y a encore plein de choses dont on ne connaît pas les mécanismes, on ne sait pas.
Mais bien sûr.
Heureusement, c'est ce qui permet aux religions de continuer d'exister. C'est parce qu'on ne connaît pas tout encore. Quand on connaîtra tout, on pourra s'en débarrasser.
Ah ouais,
on ne connaîtra jamais tout.
Mais en espérant qu'on garde la vitamine
D. C'est ça le problème.
En espérant qu'on garde la vitamine D, parce qu'actuellement, comme tu dis, il y a l'espèce de cet aspect de conséquences négatives qui est absolument inexistante, là, je veux dire, d'avoir des doses, une fenêtre où on tombe en surdose de vitamine D.
Voilà.
Mais ça me permet de faire un parallèle... avec... actuellement, il y a les injections aussi de vitamine C dans le traitement de cancer qui est en plein essor et qui est tellement mitigé également. Je ne suis pas ici pour donner mon opinion ni une réponse. J'en ai pas, finalement. On parle aussi du traitement de la vitamine B12 qui est super polyvalente dans plein de maladies, dont l'anémie et autres.
C'est principalement, oui.
Principalement. Prends tes vitamines. C'était pas à prendre à la légère. Ça se passe dans le domaine des vitamines. On entraîne des affaires.
Alors, on entraîne des affaires, mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'il n'y a en réalité pas vraiment de carence en vitamines en général.
Oh!
D'accord?
Ça, c'est comme les protéines, c'est un leurre.
Non. Okay. Non, il n'y a pas de carence en vitamines réellement. Il y a des cas, en effet, notamment dus à notre vie. On vit en souterrain, on vit dans les maisons, on ne sort pas, etc. On manque de vitamine D, c'est sûr. Mais on a des produits frais, on a de la vitamine C. On mange de la viande, on mange de toutes sortes de choses. On a de la vitamine B12 et on n'a pas d'anémie. Donc, y a, vraiment, c'est, notre société fait qu'on a très peu de carence en vitamine D. Par contre, la vitamine C... Je ne sais pas si ça fonctionne réellement, parce qu'en réalité, ça n'a jamais été prouvé. Hein. On n'a jamais fait d'études en double aveugle sur la vitamine C. Maintenant, si on en fait, en effet, dans certains traitements de cancer, pourquoi pas? Après tout, il n'y a aucun risque à en prendre.
Exactement.
Et moi, ça m'intéresse de savoir si on injecte beaucoup de vitamine C, si ça marche, tant mieux.
Ou alors une bonne gomme d'épinette. Ben oui, mais c'est comme ça que les Amérindiens combattaient le scorbut et tout
ils
ça.
Ils faisaient quoi?
De la gomme d'épinette, de la sève d'épinette qui fait une gomme très collante avec laquelle on a fait la bière d'épinette. Mais il y a
les
une
garçons,
gomme.
Et
c'est plein de vitamines.
Je ne savais pas.
La nature nous
ça.
Donne toujours ce dont on a besoin. Les médicaments actuellement sur le marché proviennent d'une plante ou de l'étude d'un mollusque ou d'un animal dans son fonctionnement pour le reproduire et nous traiter, ne l'oublions pas. Gardons
sauf
en tête.
Les antidépresseurs. Et sauf les anxiolytiques.
Ouais, c'est ça. Alors, gardons en tête que
nous
cette vitamine...
Nous parlerons d'Henri Laborette une autre fois.
Vitamine D, schizophrénie, symptômes anxieux et dépressifs, ça fonctionne. On va vers les suppléments. On s'assure de garder une petite dose de soleil quotidienne.
Absolument.
Et on prend soin de soi. Merci, François.
Les cicatrices qui marquent mes mains, les échos qui collent à ma peau, ils me rappellent ton odeur. Je suis devenu le vent que personne ne ressent. Je suis les pas qui ne mènent jamais nulle part. Un bateau égaré sur la mer démontée. Je suis le phare qui s'allume toujours trop tard. L'amant déchu qu'on n'aime plus. Je sais plus comment faire sans toi. Les éclats de toi restés sur mes doigts, les images qui hantent ma tête, elles me rappellent ta chaleur. Je suis un sablier qu'on ne veut plus retourner. Je suis une salle de concert vide comme le désert. J'étais son préféré, mais elle m'a oublié. Je suis l'enfant perdu au coin de la rue. Le fou dont on se fout. Sans toi.
Arthur Miles, la chanson Refaire le monde sur l'album 300 phares. On parle de ralentir, on parle de... Puis tu sais, on commence à en avoir besoin, là, tu sais, novembre, décembre,
ouais, c'est vrai qu'à ton âge, mieux vaut ralentir.
Ben, pour vrai, là...
Moi, si je me voyais dans un appartement chauffé avec une grosse tuque de laine, j'aurais l'impression que je vieillis, il faudrait que je ralentisse.
Tu sais que quand je l'ai mis et que j'ai choisi que j'allais la conserver pour l'émission, je savais pertinemment dans quoi j'embarquais. Tu sais que je l'ai fait en pleine conscience, hein?
T'as pas peur d'avoir de la vermine là-dedans?
Oh, vraiment, je vais t'être niaiseux. Alors, on parle de ralentir, puis effectivement, j'ai 33 ans. Par contre, je dois te dire que j'ai eu un très, très gros virement dans ma vie, un très grand changement de mode de vie en passant de quelqu'un qui s'arrêtait jamais, tant sur le plan des activités que du social, à quelqu'un qui est devenu une espèce d'ermite. Il faut que je retrouve l'équilibre là-dedans, mais c'est assez addictif, là, être seul, être bien, mais quand même. Et ça fait que tu reviens dans ce mode-là, comme aller magasiner les cadeaux de Noël, et vraiment, après 2 heures au centre d'achat, c'est vraiment assez. Là. Tu te dis, crème, je vais faire ça en 3 shots. Alors qu'avant, tu sais, c'était l'activité du samedi, c'était d'y aller au magasin. Donc, tout ça a changé. Alors oui, j'ai 33 ans, mais maintenant, je pense que ça dépend beaucoup plus de qui tu es ou de ce que tu souhaites ou de ce que tu as essayé d'y trouver ton compte là-dedans. Néanmoins, ça devient de plus en plus à la mode, cette idée de ralentir, cette idée de prendre le temps, de s'arrêter un petit peu. Je pense que tout le monde est un petit peu plein. Fed up, comme je dirais en bon français, donc un peu tanné.
Il faudrait ralentir. Je ne suis pas certain qu'il y ait une tendance que les gens ralentissent vraiment, moi. Tu vois ça, toi?
Ça, c'est comme les... Je pense que les discours, en tout cas, sont tenus.
À la théorie, oui.
Exactement.
Mais la pratique,
Sûr. Je pense que tu as raison. Mais tu sais, mais on a-tu raison? Je ne sais pas. L'idée, par contre, c'est que je crois que dans les discours, le temps qu'on se déprogramme, ça peut prendre une couple de mois. T'sais? Mais je pense vraiment qu'il y a une tendance. Ben non, mais t'sais, on en rit. Là. Mais effectivement, je pense qu'on commence à en parler et on croit réellement à ce que l'on dit. Donc maintenant qu'on sait que c'est vrai, là, c'est de l'amener dans le quotidien et dans le concret. Et pour ce faire, il y a plusieurs, du moins, comme on dit dans la théorie, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs ressources qui sont mises à notre disposition. Les gens s'y intéressent de plus en plus, sont inspirés par ça. C'est ce que j'ai envie de nous proposer à tous de lire, que ce soit maintenant, tout de suite, aller au centre d'achat, mais pas chez vous, allez pas là trop longtemps, pognez un livre et retournez chez vous le lire. L'autre jour, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu un livre... Et j'ai pas de foyer à la maison, mais tu sais, ces espèces d'écrans là, que tu peux mettre YouTube, là, t'as un feu qui... Mais je me croyais tellement. Tout est dans la tête, hein? Si tu y crois, ça arrive. Et je me suis mis un foyer sur mon écran 19 pouces d'ordinateur, parce que moi, j'ai pas de télé à la maison, c'est tout ce que j'ai. Et j'ai mis ça, ça crépitait. Je me suis mis une petite couverte, mon chat dormait à mes pieds. Je lisais mon livre et sincèrement... Là,
et ta tuque de laine?
Non, pas cette journée-là. Je n'y étais pas. Donc, oui, Lentement Magazine et le blog Ruban Cassette des initiatives d'Élisabeth Simard, qui nous a aussi donné le livre « Vivre simplement » et qui prône la simplicité et la lenteur au quotidien. C'est la première chose que je suggère aujourd'hui. C'est un livre qui est super intéressant et qui nous permet de se désencombrer. Quand tu fais de la place, ça peut faire du bien. C'est un premier pas.
Chaque époque connaît ses ralentissements comme ça. Tu cites un auteur qui est maintenant publié là-dessus, puis dans les années 70, il y avait le docteur Mongeau qui avait écrit 2-3 livres là-dessus.
Puis il n'y a personne qui l'a écouté. Non, mais tu sais.
Mais tout le monde l'a lu.
Ben, c'est au moins ça, c'est un beau départ. Ralentir également. Oui, ralentir pour réussir, de David Bernard, qui rejoint un peu ce qu'on disait en début d'émission, donc aller moins vite pour mieux faire les choses et finalement être plus productif. Des clés pour ralentir, pour retrouver ses désirs d'avant, de Richard Hessel aux éditions Québécois, est aussi un livre intéressant sur le sujet. Et pour ceux qui sont un peu plus pratico-pratiques, qui sont un peu plus concrets, disponible chez Renaud Bré, des cahiers d'exercices pour prendre son temps. Littéralement, c'est comme ça que ça s'appelle, le premier que je vous suggère. Donc, cahiers d'exercices pour prendre son temps d'Arnaud Soutif, c'est 12,95. Tu sais, c'est pas... une grosse affaire, ça se fait super bien. Ralentir grâce à la pleine conscience, 100 petits exercices pour une vie plus calme, de Jill Hasson, qui est à 14,95 et cahier de travaux pratiques pour apprendre à ralentir, de Karl Honoré, 4,99. Commençons par ça et voyons où on peut aller
si
avec
ça. Si ça fait pas l'affaire, achetez-vous une montre qui retarde beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et en terminant, je veux parler de Tania Boucher, qui a conçu l'album 2019 « Ralentir pour s'accomplir », un agenda qui permet d'écrire ses objectifs, ses réflexions, ses petits bonheurs de la journée. Il y a des exercices trimestriels pour se déposer, un tableau de vision au début de l'année. Elle est à l'origine, Tania Boucher, de « Ma voix vocale, ta voix », comme la voix où on marche, où on peut commander l'agenda sur ce site-là, c'est mavoixtavoix.com. C'est 30$ cet agenda-là. Et d'ailleurs, le site complet Ma voix, ta voix vise à ralentir pour s'accomplir. Donc, on aura beaucoup de choix pour commencer.
Prends ton temps.
Françoise qui nous chante « J'ai fini de pleurer » de l'album du premier baiser. Je vais dire comme toi, c'est pas ce qui nous a fait ralentir.
Dans le dernier deux minutes. Tantôt, tu m'as dit « ralenti ». Ça, prends ton temps. C'est comme Marie-Soleil Touga qui disait souvent ça. « Prends ton temps, mais fais ça vite! » Quand ceux qui ont écouté Fort Boyard dans les années 90. C'était une phrase qui nous est restée à tous et à tous. C'est rendu comme dans les...
Là, tu vas nous parler de la semaine 2, le mois 2, le jour 2. Mais là, c'est l'heure de... Emma!
Ah, il a vraiment stallé là-dessus. C'est mon alter ego, c'est Emma. Alors ici, Emma qui va vous parler effectivement des journées à célébrer cette semaine. Des journées qui, en apparence, je vais vous avouer, cette semaine, c'était pas la journée la plus festive, sauf peut-être une des fêtes qui nous est proposée, n'en demeure pas moins que le 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida, qui en est à sa 30e édition en 2018, qui va se dérouler sous le thème « Connais ton statut », qui amène chacun et chacune à se responsabiliser quant à son statut vis-à-vis le VIH. Si on parle ici de dépistage, de prévention, on parle à tout le monde. Surtout la stigmatisation, la discrimination, on va le dire l'ignorance et la peur qu'on a ou qu'on voit encore face à la réalité et aux faits entourant le sida, sont tout autant d'obstacles à l'atteinte de l'objectif 90-90-90. Est-ce que tu connais ce projet 90-90-90? C'est un objectif ambitieux de l'ONU pour mettre fin à l'épidémie de sida pour 2030. Et pour ce faire, à l'horizon de 2020, on vise à ce que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée. Donc ça, c'est notre 90, 90, 90. Donc, n'ayons pas peur de s'informer hein, sur la situation du sida et des gens qui en sont atteints en 2018. Il est grand temps de faire face et surtout d'aller vérifier à notre tour notre statut sérologique. Pour ma part, moi, je fais un dévoilement de soi qu'on appelle dans le monde psychologique. Là. Moi, volontairement, je le fais chaque année. Mon médecin m'a demandé, il m'a dit, Emmanuel, tu pourrais le faire aux 2 ans. Ça serait correct. Mais moi, depuis à peu près 12 ans, je le fais chaque année. Je demande à ce que le VIH-SIDA dans mes prises de sang annuelles soit vérifié, juste parce que c'est une question de santé publique. C'est une question de responsabilité. Ça touche tout le monde.
Il faut que ce soit sorti de la prévention quand même. Hein? Un condom, ça nuit pas. Hein?
Tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est un geste qu'on peut faire tous et toutes pour notre santé, pour la santé de nos sociétés. 2 décembre, et c'est là que je vais vers quelque chose un peu festif, parce qu'on fête la Journée internationale de la samba, qui n'est pas une danse que je pratique personnellement cette fois. C'est pas ma force. C'est pas là que se situe ma force. Partie intégrante de la culture brésilienne, on doit cette journée-là, et plus précisément le choix de cette date comme célébration de la samba, à un dénommé Luis Montero da Costa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'imagines, moi, qui danse la samba?
Ben, je me disais, ça y prendrait des pneus antidérapants sur les côtés pour sa chaise, des choses comme ça. Là.
Oh, écoute, j'ai beaucoup d'autres qualités, d'autres aptitudes
ben,
également.
C'est sûr.
Mais celle-là, je vais en laisser à ma sœur puis à d'autres qui vont prendre plaisir à le faire.
Ce que j'aime, c'est de passer du sida à la samba, tu sais.
C'est ça, presque la vie.
C'est presque le titre d'une chanson, ça.
On passe... T'appellerais ça comment? Vas-y donc. Du sida à la samba?
Samba twin sida.
Ben, bel essai, mais pour vrai, sans faire de blague, la journée qu'on va danser la samba en parlant de sida, c'est parce qu'on va avoir changé de situation. On va faire un 360, laisse faire le 90, 90,
ça se
90.
Peut qu'on change de pas, ouais.
Et tu sais quoi? J'y crois.
C'est possible.
Oui,
c'est
j'y possible. Crois. La samba, Luis Montero da Costa, on voit mon portugais ici, qui est très, très bon. Conseiller municipal au Salvador qui l'a fait coïncider cette journée-là avec la première venue du compositeur Ari Barroso au Salvador. Tu connais?
On connaît pas ça, ce monde-là, pantoute. C'est quoi l'idée?
C'est donc... Ben, c'est un compositeur, toi, amateur de musique classique. Oh, je me suis dit,
écoute,
peut-être...
On s'en fout de son nom. Vas-y, conte-nous l'histoire.
C'était là. Et Louis a trippé, puis il s'est dit, quelle visite d'un grand que personne connaît à Carabao.
Fait qu'on va faire une journée de la samba.
Oui, c'est ça. Fait qu'on va faire une journée de la samba pour ceux que ça intéresserait, peut-être pas toi, mais d'autres personnes. Vous
non,
pouvez
moi,
vous rendre
la
sur
journée du tango.
Le internationalsambaday.com.
Mon Dieu.
Merci à Jean-Sébastien à la Liberté en régie. Merci Catherine Broudon à la recherche. Merci Robert. C'est un plaisir de co-animer avec toi chaque
chaud,
semaine.
Que ça va?
Non, ça va. Je vais parfait. Même la garder pour le reste de la journée. Merci tout le monde d'avoir été avec
pauvre
nous et on
Turc.
Se retrouve la semaine prochaine. Aime la vie.